l'accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui s'attache à la vie des Européens et à ceux qui tentent d'entrer sur le continent. C'est l'un des pays les plus touchés par les récentes vagues d'immigration. C'est l'un de ceux les plus critiqués aussi par ses voisins de l'Union européenne, parce qu'il a construit une clôture de séparation avec la Turquie, parce que les migrants y sont maltraités. Montré du doigt donc, la Bulgarie se défend et réclame des aides de l'Union européenne. L'an dernier, près de 10 000 réfugiés avaient réussi à atteindre le pays dans l'espoir d'obtenir le droit d'asile. Mais les procédures à suivre restent toujours aussi longues et tortueuses. Damien Vonelicharov.
Le casse-tête administratif des réfugiés commence dès qu'ils pénètrent sur le territoire bulgare. La plupart d'entre eux saisis par la police des frontières, près de points de passage. Les réfugiés sont alors détenus dans des centres fermés où les autorités tentent de déterminer leur identité. Ces détentions peuvent durer de quelques jours à plusieurs mois. C'est pendant cette période que les réfugiés peuvent faire une demande d'asile. Ils devront cependant paraître devant la justice. La plupart n'ont pas de papier d'identité, ce qui signifie que le parquet considère qu'il s'agit d'immigration clandestine, punissable d'une peine de 5 ans. Une fois la demande d'asile déposée, les réfugiés peuvent être installés dans des centres ouverts. S'ils n'obtiennent pas le droit d'asile, les demandeurs peuvent faire appel, ce qui les ramène à la case départ. La Cour ne peut qu'annuler une décision de l'Agence pour les réfugiés qui attribue le droit d'asile ou le refuse. Les réfugiés peuvent faire ainsi des va-et-vient 2, 3, voire 4 fois. Les autorités attribuent enfin plusieurs types de protection aux demandeurs. Le droit d'asile attribué par le président, le statut de réfugié attribué par l'agence en charge à ceux qui craignent la persécution politique, religieuse ou autre dans leur pays d'origine, le statut humanitaire conféré aux demandeurs d'asile forcés de rester en dehors de leur pays d'origine en raison d'un danger de mort, de torture ou de menace. Les autorités peuvent également attribuer une protection temporaire dans le cas d'immigration de masse provoquée par un conflit armé ou par des atteintes aux droits de l'homme. Le statut de réfugié accorde en outre la libre circulation au sein de l'Union européenne, alors que le statut humanitaire requiert des visas de voyage.
L'Allemagne, quant à elle, a décidé de durcir sa politique d'asile, une loi qui fait polémique car elle cible certaines populations venues des Balkans. Trois pays, la Serbie, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine, sont ainsi placés sur la liste des pays dits désormais sûrs. Conséquence directe, les personnes issues de ces trois États n'ont quasiment aucune chance de voir leur demande d'asile aboutir en Allemagne. La réforme vise implicitement la communauté rome et elle est dénoncée par les associations de défense des droits de l'homme. Depuis Berlin, c'est le reportage de Julien Méchaussi.
Des pays qui ne connaissent ni persécution systématique ni traitements inhumains. C'est ainsi que le gouvernement et le législateur allemand justifient leur décision. Une fois placés sur la liste des pays d'origine jugés sûrs, les citoyens de ces États peuvent être expulsés lors de procédures accélérées. Et pour Reinhard Marx, avocat spécialiste du droit d'asile installé à Francfort-sur-le-Main, l'objectif recherché est clairement affiché.
Le but recherché est de lancer un signal, d'envoyer un message à ces pays. Cette réforme législative le dit clairement, toute tentative de demande d'asile est vouée à l'échec, avec comme résultat espéré que les réfugiés ne viennent plus en Allemagne.
Du côté des organisations de défense des demandeurs de droits d'asile, c'est la levée de boucliers. Elle dénonce une réforme ficelée à l'encontre des Roms venus de Serbie, Bosnie-Herzégovine et Macédoine et qui vient officialiser les pratiques déjà appliquées. Sur 19 000 demandes d'asile déposées cette année par des ressortissants de ces trois pays, seuls 55 ont été acceptées, soit 0,3%, les demandes étant jugées sans fondement. Nora Bretzger du Flüchtlingsrat de Berlin, le conseil des réfugiés qui défend les droits des demandeurs d'asile, dénonce une législation qui ferme les yeux sur la situation des communautés roms dans les Balkans.
Quand des personnes arrivent à peine à survivre au quotidien, comme c'est le cas de la majorité des Roms en Bosnie, Serbie et Macédoine, comment voulez-vous qu'elles prouvent qu'elles sont victimes de persécutions politiques? Ces populations sont tellement habituées à être discriminées qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles le sont. Les enfants roms, par exemple, trouvent trouvent normal de ne pas pouvoir aller à l'école. C'est une discrimination dont ils n'ont même plus conscience.
Depuis 2009, les citoyens issus de Serbie et de Macédoine n'ont plus besoin de visa pour rentrer dans l'espace Schengen. La Bosnie-Herzégovine, elle, a suivi un an plus tard. Cette nouvelle réglementation a entraîné une forte augmentation du nombre des demandeurs d'asile de ces pays. Ils représentent désormais un cinquième des dossiers à traiter ici. Selon le gouvernement, les autorités administratives sont débordées, ne peuvent pas examiner les dossiers de réfugiés de pays en guerre, comme les Syriens. Une hiérarchisation de l'accès au droit d'asile jugée inacceptable par Nora Bretzger.
Nous nous dirigeons de plus en plus vers une distinction entre bons et mauvais réfugiés. Ceux qui viennent des régions en guerre ont le droit de rester ici et tous les autres doivent partir. Nous ne faisons rien d'autre que de sélectionner nos réfugiés. Nous déterminons qui a besoin de protection et qui n'en a pas besoin. Tout cela va à l'encontre de la définition même du droit d'asile. Si mon enfant meurt de faim, de violences racistes ou sous les bombes, à la fin, le résultat est le même.
Autre conséquence pour les demandeurs d'asile venus de Serbie, Bosnie-Herzégovine et Macédoine, les dossiers auront très peu de chances d'être examinés au cas par cas. De nombreux rapports, notamment d'Amnesty International, dénoncent pourtant la situation des Roms dans ces régions où ils représentent jusqu'à 10% de la population, exposés à des actes racistes, exclus du système scolaire ou de santé. Et à l'heure de discussion sur un élargissement de l'Union européenne vers les Balkans, cette réforme pourrait bien aussi briser les espoirs d'amélioration des conditions de vie des Roms au sein des trois pays concernés, comme le souligne l'avocat Reinhard Marx.
La modification de la loi a également pour conséquence de donner carte blanche à ces pays dans le cadre des négociations portant sur leur entrée dans l'Union européenne. Ils pourront à tout moment dire « l'Allemagne nous a mis sur la liste des pays d'origine sûre, nous sommes donc prêts pour une adhésion ». Et l'Union européenne n'aura alors aucune possibilité d'émettre des réserves à l'encontre de ces pays.
Mais l'Allemagne n'est pas le seul État en Europe à suivre cette voie. La France aussi a placé les trois pays des Balkans sur la liste des pays d'origine sûre.
Ça va mieux en revanche en Grèce, longtemps critiquée. La situation des réfugiés s'améliore, en tout cas le droit d'asile. Il y a un an, un système a été mis en place pour pouvoir traiter les demandes plus efficacement et dans le respect du droit. Cette année, un tiers des demandeurs ont obtenu gain de cause, alors qu'il n'était que 3% l'an dernier. Mais avec l'afflux massif de réfugiés ces derniers mois, le travail de ce service d'asile reste très difficile. Charlotte Stevenard.
Au service d'asile d'Athènes, les réfugiés font parfois la queue depuis l'aurore. À l'entrée, trois personnes, dont un traducteur, les renseigne et les oriente. Il existe aujourd'hui 9 centres ou unités mobiles de ce type en Grèce, dont certains non loin des frontières avec la Turquie. Près de 300 personnes se rendent chaque jour au service d'asile de la capitale. Ils viennent d'Afghanistan, du Pakistan, d'Albanie, du Bangladesh ou encore de Syrie. Le flux est important alors que sur place, une centaine d'employés seulement enregistrent et évaluent les dossiers. C'est un service public financé par l'État, l'Union européenne et les États membres de l'UE. Avant sa création, c'était à la police de réaliser cette procédure. Avec le manque de formation et de moyens, cela pouvait parfois prendre plusieurs années. Avec le nouveau système, les demandeurs d'asile attendent en moyenne 3 mois. Et depuis 3 semaines, une procédure accélérée a été mise en place pour les Syriens. Ils peuvent faire leur demande, passer devant la commission et obtenir la réponse dans la même journée. C'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui a formé les équipes grecques. Les avocats de cette organisation travaillent encore comme conseillers pour les juristes qui étudient les cas et ils continuent de siéger dans les commissions d'appel. Pour la Grèce, c'est un changement de culture alors que les migrants et demandeurs d'asile sont toujours considérés comme des délinquants. Ceux qui n'ont pas encore leurs papiers sont souvent enfermés dans des centres de détention. Ils peuvent y rester jusqu'à 1 an et demi alors que ces centres sont surpeuplés et les conditions sanitaires déplorables. Et ils pourraient être encore plus remplis. Pour l'année 2014, seules 7000 personnes ont demandé asile en Grèce. C'est peu au regard des 22 000 migrants arrivés par la mer Égée selon les chiffres du gouvernement. En réalité, beaucoup préfèrent partir vers le nord de l'Europe où ils ont souvent des proches, mais où il y a surtout du travail.
En Belgique, être étudiant, c'est vivre dans un monde un peu à part, avec sa propre culture, ses traditions bien ancrées et même son propre vocabulaire. Une des bizarreries de cette vie étudiante, ce sont les COTS à projet, ou CAPS, des colocations thématiques. Les étudiants cohabitent sous un même toit pour mener un projet commun. La pratique est ancienne, elle est née sur le campus de l'Université catholique de Louvain, en même temps que sa création en 1968. Sur les quelques 27 000 étudiants que compte l'université, 700 à 800 d'entre eux font partie d'un COTS à projet. Barbara Schall s'est rendue sur place.
Louvain-la-Neuve, dans les rues de cette ville sortie de terre au début des années 70, il est plutôt rare de croiser des passants de plus de 30 ans. La ville se résume à son campus, ou presque, et c'est dans la rue des Blancs Chevaux que se trouvent la plupart des cotes à projet. Petit précis de vocabulaire avec Timour.
Déjà, on va commencer par le cote. Le cote, qu'est-ce que c'est? C'est une colocation étudiante, en fait, tout simplement. C'est un terme à la base qui vient du néerlandais ou du flamand, ici en Belgique, qui a été bien utilisé dans les deux communautés et qui est vraiment maintenant rentré dans le langage courant. Et alors un CAPS, c'est une petite déviante, c'est un acronyme pour désigner les quotas projets. Et un quota projet, ça c'est vraiment un long débat et une longue définition aussi.
Un quota projet, c'est une colocation à thème. Une petite dizaine d'étudiants vivent sous le même toit et planchent pendant un an sur un projet commun. Timour est le président de l'organe, c'est le nom du collectif qui rassemble les cotes à projet de Louvain-la-Neuve.
Il y a des cotes de sport, il y a des cotes sur la culture, il y a des cotes même sur la spiritualité, il y a des cotes qui organisent des événements, des festivals. Sur Louvain-la-Neuve, il y en a 78 différents, donc ça représente pas mal de possibilités.
L'université fournit des logements à ses étudiants pour un loyer un peu moins élevé qu'ailleurs. La contrepartie, animer la vie du campus ou rendre service aux gens du voisinage. Direction le costume, le royaume du déguisement. Blandine et ses cocotteurs, c'est comme ça qu'on appelle les colocataires dans le jargon, nous accueillent.
Donc ça, ce sont les costumes qu'on loue pendant l'année. Il y en a plus ou moins 200. À côté de nous, là, on a la catégorie histoire qui reprend. On a des hommes de Cro-Magnon, des chevaliers, des femmes des années 60. On a vraiment du tout. On a des uniformes. Donc ça reprend l'uniforme de caissière, l'infirmière, le joueur de rugby. Enfin voilà, il y a plein de trucs.
Deux fois par jour, le COT est ouvert au public et les costumes loués à petit prix pour des soirées étudiantes ou encore des fêtes d'entreprise.
C'est un peu notre caverne d'Ali Baba, quoi. On est là et les gens montent et ils sont toutes. On voit leurs yeux qui s'ouvrent grands et qui sont là, ils essayent plein de trucs et ils sont hyper heureux. Je trouve ça super chouette. C'est ma troisième année et je suis toujours aussi heureuse d'être là.
Ce soir, les nouveaux cocotteurs apprennent à se connaître. Les conversations tournent autour de leur monde bien à eux. Paco.
Les codes sont vraiment inclus dans la ville et les gens vivent là. Donc évidemment, les choses se disent beaucoup. Il y a aussi les commérages, le voisinage, les soirées, etc. qui jouent, quoi. Et effectivement, on entend parler que machin dans tel cote a fait ceci, cela, et donc voilà, ça va vite, quoi.
Alors bien sûr, on parle des tout nouveaux cotes, comme le Brassicote, quelques rues plus loin.
Donc là, ici, on est dans la cuisine du Brassicote. C'est un nouveau cote à projet qui s'est lancé cette année autour de plusieurs messages qui gravitent autour du monde de la brassicologie belge.
Nicolas et ses acolytes veulent organiser des dégustations, mais aussi brasser leur propre bière dans les locaux de l'université. Leur projet n'a pas été accepté tout de suite, mais ils ont finalement réussi à convaincre le jury.
Nous, on veut montrer que finalement, entre boire 15 pils et ne plus se souvenir de la 16e, etc., on peut bien boire 4 bonnes spéciales et s'en souvenir, et pouvoir se souvenir, ah tiens, j'étais avec telle personne, on avait discuté de ça, et tiens, celle-ci, elle avait un arôme intéressant à ce niveau-là, et donc c'est plutôt changer les mentalités là-dessus.
Il existe aussi des cotes à vocation religieuse. Certaines années, l'université a hébergé un cote homosexuel. Aucun projet n'est exclu a priori. Vincent Baumal, responsable du service logement de l'université.
Il y a malgré tout une limite qui ne peut être franchie. On doit rester dans des activités qui soient évidemment louables. Il ne peut pas y avoir évidemment de projet à but de lucre, bien sûr. Ça doit être toujours dans un esprit de service rendu. Et donc, tant qu'on reste dans ce cadre-là, il n'y a pas de raison de mettre des limites, évidemment.
Vincent Baumal l'assure, les cotes à projet font partie du projet pédagogique de l'établissement. Participer à une expérience comme celle-là, c'est valorisant sur un CV. Autre avantage, le rayonnement de Louvain-la-Neuve. Souvent, des universités étrangères viennent visiter ces cotes à projet pour essayer d'importer le concept sur leur propre campus.
La lecture n'est pas un plaisir, elle est souvent une corvée.
Lire, c'est une joie, c'est un plaisir.
Livre.
Livre.
Il est connu pour ses frasques, ses cheveux très blonds, toujours en pétard, et ses ambitions politiques. Le maire de Londres, Boris Johnson, défraie régulièrement la chronique, mais à moins d'un an des élections, il a décidé de donner de lui une image plus posée, plus sérieuse et surtout plus forte. Il vient d'écrire un nouveau livre, une biographie de Winston Churchill, The Churchill Factor, ou comment un homme peut faire toute la différence. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Catherine.
Alors, Churchill Factor, voilà donc une énième biographie du grand homme.
En fait, ça n'est pas vraiment une biographie, c'est plutôt une analyse de Winston Churchill à travers son caractère et certains événements. Le livre n'est pas du tout écrit de manière chronologique. Boris, comme tout le monde l'appelle ici, tellement il a l'air cool et détendu, a voulu décortiquer son idole, expliquer comment et pourquoi Churchill est une figure essentielle de l'histoire du XXe siècle, voire, selon lui, la figure essentielle de l'histoire du XXe siècle. En fait, il a décidé d'écrire ce livre parce qu'il estime qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent plus Churchill, ils saurait à peine qui c'est, peut-être quelqu'un qui a combattu pendant la guerre, et encore. Mais surtout, l'ex-premier ministre n'est pas toujours présenté sous son meilleur jour. Alcoolique, colérique, impérialiste, va-t-en-guerre, raciste, misogyne, autant de mots qui définiraient Churchill dans la tête de beaucoup de gens aujourd'hui. Alors Boris a voulu défendre son modèle.
Bon, bah alors c'est vraiment une hagiographie, Marie.
Oui, c'est tout à fait ça. Churchill ne peut rien faire de mal, absolument rien, selon Boris. Ainsi, cette sortie inimaginable de nos jours, lorsque la première femme est entrée au Parlement, Churchill a dit « J'ai l'impression que vous venez d'entrer dans ma salle de bain et que je n'ai qu'une éponge pour me couvrir. » Pour le maire de Londres, ce n'est pas de la misogynie, c'est un trait d'humour. C'est vrai qu'on pardonne beaucoup aux grands hommes, mais là, l'auteur va très loin dans l'empathie. Il essaie aussi d'expliquer tout ce que Churchill a fait pour le monde. Il a sauvé l'Occident, étant l'un des seuls en Angleterre et en Europe à refuser de céder devant les nazis. Il a développé l'armée de l'air britannique, il a inventé le tank, il a mis en place les premiers services de l'emploi. Il a même été un superbe exemple pour toutes les personnes souffrant de dépression. Parce que si un homme harcelé par son chien noir, comme il l'appelait, peut sauver le monde, n'importe qui peut vaincre son mal-être. Bref, Boris en fait beaucoup, il en fait trop. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Il ne cache rien en fait, c'est un ouvrage très érudit. Il affronte toutes les critiques. Pas une seule n'est passée sous silence. Il donne par contre une excuse à tous les excès, de la boisson et au cigare jusqu'à la répression violente des grèves et des manifestations, et en passant par son opposition à l'indépendance de l'Inde. Tout est explicable, selon Boris Johnson, Churchill était parfait, un point c'est tout.
Et ce n'est pas un hasard hein, si Boris Johnson se donne tant de mal pour défendre Churchill.
C'est clairement une stratégie d'autopromotion. Le maire de Londres a beau dire qu'il a plus de choses en commun avec un paresseux à trois doigts qu'avec Churchill, personne n'est dupe. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas si longtemps, il s'est lui-même comparé à lui, notamment quand il a lancé « Je bois beaucoup lors des déjeuners, comme mon idole Winston Churchill ». Mais la comparaison va beaucoup plus loin qu'un amour partagé pour les spiritueux et les cigares. Comme Churchill, Boris était journaliste avant d'entrer en politique. Comme lui, une fois entré en politique, il a continué à écrire, dans les journaux, mais aussi des romans et des essais. Comme son idole, il aime faire le pitre, il aime les bons mots, les mots inventés et les formules assassines. Alors en fait, Boris espère que, comme Churchill, on lui passera toutes ses canailleries, parce que c'est un génie. Alors il a certainement l'ambition de devenir Premier ministre, comme Churchill d'ailleurs, et 41% des Britanniques, selon un sondage récent, le verraient effectivement bien remplacer David Cameron.
Alors justement, dans l'opinion, est-ce qu'on a compris le but de la manœuvre ?
Que Boris Johnson ait dressé son autoportrait rêvé dans The Churchill Factor, tout le monde l'a vu. Et finalement, ça n'étonne personne. Comme à Churchill, on pardonne déjà beaucoup de choses à Boris Johnson. Ce qui passe beaucoup moins en revanche, c'est sa légèreté, son manque de sérieux. Une seconde, il est maire de Londres, l'autre, il est chroniqueur, celle d'après, il est écrivain, celle d'encore après, il est candidat à la députation, alors que être maire d'une mégalopole, c'est un job à temps plein. Surtout que finalement, son bilan à Londres n'est pas si terrible que ça. À part les JO, Boris Johnson ne laissera pas grand-chose à la postérité. Malgré tout, il a une ambition dévorante et il a déjà besoin de la même indulgence que celle qu'on accorde aux grands hommes.
Merci Marie et à très bientôt dans Accent.
À bientôt Catherine.
Accent d'Europe, c'est déjà fini à la réalisation Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur le site RFI.fr. Rendez-vous également sur notre page Facebook. Restez à l'écoute dans un instant, les infos.